Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Souvenirs des glaces, le podcast des mémoires de glaciologues de A à Z. Pour ce nouvel épisode, embarquons pour les lettres K et L. Au début des années 1970, avant sa première mission en Antarctique, Daniel Denoux réalise une mission sur l'archipel Kerguelen. Il s'agit d'un archipel français situé au sud de l'océan Indien. L'objectif était de faire des mesures sur un glacier qui avançait de 10 mètres par jour et d'utiliser des anémomètres, des appareils mesurant la vitesse du vent. Le voyage s'est fait à bord du Gallieni, un cargo transportant des marchandises et des personnes. C'est parti pour K comme Kerguelen.
Kerguelen, c'était une mission, c'est la mission la plus difficile que j'ai faite. Parce que c'est une mission où c'est un temps où Kerguelen, il fait 0 degré tout le temps. Donc, où il neige, où il pleut, c'est toujours humide, mouillé. Je ne regrette pas cette mission, mais je me dis que c'était la plus dure que j'ai faite. Parce que quand tu as froid, mais tu peux te réchauffer. Tu es mouillé et que tu n'as rien pour te... Puis on était outillés avec des habits de militaires. Donc des vestes qui se détrempaient, c'était pas étanche. Le soir, on la mettait sur, je sais plus sur quoi, pour pouvoir la sécher, enfin sur le groupe. Il y avait des hélicoptères, ouais. ils nous ont posé les tôles et les cabanes, et on a construit notre cabane en tôle. C'est un demi-rond qui est sur 7-8 mètres. Mais c'était l'horreur à l'intérieur de ce bâtiment. On n'avait pas de pluie. Comme on fait de la cuisine, ça condense sur les murs et puis ça nous retombe dessus. Là, tout est mouillé, t'es toujours trempé. C'était le Gallieni, l'Afrique du Sud. Et après, il alimente toutes les îles subantarctiques, mais y compris des îles australiennes ou Afrique du Sud. Ce qui fait qu'on est en 3 semaines pour aller... Kerguelen, et de Kerguelen, on est allé à Port-aux-Français, mais Port-aux-Français, on a débarqué le matériel pour la base et pour les gens qui y habitent. Et nous, ils nous ont ramenés dans un endroit qui était sur un glacier qui s'appelait le glacier Ampère. Avec Yves Morin, qui était un guide, on a fait le montage de tout son matériel sur le glacier. C'était l'étude des anémomètres qui étaient passés à 10 cm, 20 cm, 30 cm, voir la vitesse du vent avec le frottement sur le glacier. Donc il a fait ça et il y avait, chaque anémomètre avait un câble, parce que maintenant on met un truc et puis il n'y a plus de câble, mais il y avait un câble en 1,5 sur 250 mètres de longueur à tirer, et comme il y avait 40 ou 50 anémomètres, il a fallu tirer 40 à 50 mètres. Et entre le glacier et la terre, il y avait des rimées, une rimée qui faisait à peu près 1 mètre de large, qui descendait sur 40-50 mètres sous le glacier. Parce que le soleil tape, ça fond le glacier, et ça fait une rimée. Et donc là, pour passer tous ces câbles, il faut sauter cette rimée de l'autre côté avec des crampons, être sûr que bon, le premier qu'il a fait, c'est bon. Après, on a mis une corde pour pouvoir assurer, mais... C'est Yves Morin qui a fait tout ça, hein, parce que moi, je n'y serais pas arrivé. Quoi.
Une rimée est une crevasse dans un glacier, située entre la partie immobile du glacier et la partie en mouvement. Claude Lorius et Louis Liboutry étaient deux grands glaciologues français. Louis Liboutry est l'un des pionniers de la glaciologie mondiale. En 1958, il fonde un laboratoire de glaciologie à Grenoble. En plus de ses travaux de recherche, il publie un traité de glaciologie en 1965 qui contient toutes les connaissances de l'époque sur la glace et les glaciers. Claude Lorius a été l'un des pionniers de la recherche sur les glaces polaires. Il a mené de nombreuses expéditions en Antarctique. Il est le premier à mettre en évidence le lien entre la teneur en dioxyde de carbone et le climat. À la fin des années 60, Lorius et Liboutry fusionnent leurs deux équipes à Grenoble. C'est parti pour L comme Liboutry et Lorius.
C'était particulier. Il y avait un point qui était rigolo, c'est que Libouterie vous voyait tout le monde et tout le monde le vous voyait, sauf Lorius. Et c'était vraiment... mais il y avait une espèce de... pas de conflit, mais d'antagonisme entre les deux, entre Libouterie qui était objectivement, c'était vraiment un génie. C'est, il avait des idées sans arrêt, il était super fort, il connaissait plein de choses. Et puis Lorius, qui était un manager de génie, qui savait repérer là où il fallait aller, les directions et tout ça. C'était particulier. Quand je suis rentrée au CNRS, quand on rentre, on a un parrain ou une marraine. Et quand je suis rentrée au CNRS, mon parrain, c'était Claude Lorius. Mon directeur de recherche, c'était Libouterie. Et mon parrain, c'était Claude Lorius. Alors que normalement, ce n'est pas quelqu'un du même labo. Et je pense que la commission avait voulu équilibrer les choses dans ma carrière. Je ne les ai jamais vus se disputer, mais on voyait vraiment que c'était deux philosophies différentes. Et il y avait même ceux qui écrivaient à l'encre, avec un stylo plume, toute l'équipe de Libouterie, et ceux qui écrivaient au crayon, c'était l'équipe de Lorius. Et c'est rigolo, hein, parce que alors moi j'étais transfuge, et du coup j'écrivais au crayon, j'écris toujours au crayon. Et Libouterie, il écrivait à l'encre, et ensuite il découpait les petits bouts de papier, il collait tout, et donc on recevait des machins tout collés.
Je pense que ces deux hommes qu'il ne faut pas opposer, et qui se complétaient vraiment, aussi bien sur le plan humain que sur le plan de la science, tout à fait, alors là, véritablement, bien sûr, et sur le plan de l'organisation dans le travail, je veux dire, si t'es mieux, finalement, sur le papier, c'est idéal d'avoir un Libouterie et un Lorius. Parce que la diversité, elle crée à la fois des conflits et à la fois des choses merveilleuses. Donc c'est exactement ça. Pourquoi chercher à opposer deux personnes qui franchement sont différentes, mais totalement différentes, et heureusement dans un sens. Alors après, tu peux avoir plusieurs approches. Tu as l'approche humaine. Et ils avaient des approches, des personnalités et des comportements parfois opposés, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais si t'es mieux, j'ai jamais ressenti un conflit. Dans leurs esprits, il devait y avoir sûrement des critiques et de l'un vers l'autre et vice-versa. Mais je pense qu'ils avaient l'intelligence de se rendre compte que le mélange des deux, c'était pas si mal.
Merci à Daniel Donou, Catherine Ritz et Dominique Reynaud pour leur témoignage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans quelques jours pour les lettres M comme modélisation et N comme niveau des mers.